22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Je suis très heureux d'accueillir Geneviève Cohen-Cheminée. Geneviève, vous êtes professeure d'études américaines à la Sorbonne et vous êtes l'auteur d'une thèse consacrée à Charles Reznikoff qui creuse la notion d'appropriation, et vous travaillez en ce moment sur la matérialité poétique. Ce sera intéressant de voir ce que l'on entend, ce que vous entendez par le terme matérialité. Vous êtes en train de traduire les œuvres complètes de poésie de Charles Reznikoff, qui couvrent à peu près toute la longueur de sa vie, entre, disons, 1917 jusqu'à sa mort, 1976. Vous êtes la rédactrice en chef d'une revue qui s'intitule « Sillage critique ». Et puis, vous êtes le webmaster, je ne sais pas comment on dit si un féminin, du laboratoire à la Paris-Sorbonne, Vallée, voix anglophone, littérature, esthétique. Et puis, quelquun aussi qui fait office de référence quand il s'agit des poètes objectivistes et du rapport à la littérature au témoignage, Charles Reznikoff, Fiona McMahon, qui est l'auteur d'un livre qui est sorti en 2012, Charles Reznikoff, une poétique du témoignage, aux éditions de l'Harmattan, et vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne en littérature américaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet Reznikoff, je voulais passer par l'intermédiaire d'un texte. Je vais commencer par une courte lecture du début d'une des œuvres majeures de Reznikoff, qui donc vraiment incarne cette poétique du témoignage. On aura l'occasion d'en discuter avec Fiona, à travers un texte qui s'intitule « Holocaust », qui était traduit de l'américain par Oxmery. C'est paru aux éditions Prétexte éditeur. Et donc je vais lire le début avec un petit, comment on peut appeler ça, préambule, épigraphe, qui est celui-ci. Tout ce qui suit est basé sur une publication du gouvernement des États-Unis, procès des criminels devant le tribunal militaire de Nuremberg et les enregistrements du procès Eichmann à Jérusalem. Donc je vais lire la séquence 1 de ce texte, qui s'intitule « Déportation ». 1, 2, 1. Un soir, un policier vint et lui dit, il était venu de Pologne, avait vécu en Allemagne presque 30 ans, il lui dit à lui et à sa famille, au poste de police immédiatement, mais vous n'allez pas tarder à revenir, ajouta le policier. Ne prenez rien sur vous, que vos passeports. Quand ils arrivèrent au poste de police, ils virent des Juifs, des hommes, des femmes et des enfants, certains assis, d'autres debout, et beaucoup en larmes. Tous furent emmenés à la salle de concert de la ville, les Juifs de tous les quartiers de la ville, et gardés là 24 heures, et puis on les emmena dans des fourgons de police jusqu'à la gare. Il y avait foule dans les rues où passaient les camions et les gens criaient « Les Juifs en Palestine, rentrez en Palestine !» Et les Juifs furent tous mis dans un train pour les emmener vers la frontière polonaise. Ils y parvinrent au matin. Les trains arrivaient de tous les coins d'Allemagne et les Juifs à la fin furent des milliers. Là, ils furent fouillés. Et si l'un d'eux possédait plus de 10 marks, on lui prenait le reste. Et les SS, les hommes des brigades de protection nazies, en le prenant, disaient « Vous n'avez pas apporté plus en venant en Allemagne et ne pouvez en sortir plus. » Les hommes des brigades SS les protégeaient quand ils avançaient vers la frontière polonaise. Ils fouettaient ceux qui s'attardaient et leur arrachaient leurs petits bagages quand ils en avaient un et criaient « Allez, vite !» Quand ils arrivèrent à la frontière polonaise, les fonctionnaires polonais examinèrent les papiers des Juifs, virent qu'ils étaient des citoyens polonais et les emmenèrent dans un village d'environ 6000 personnes. Les Juifs étaient au moins deux fois plus. La pluie battait fort et les Polonais n'avaient pas de place pour les mettre, que des écuries dont le sol était couvert de crottins de cheval. 2-2-1. Un juif qui était venu au bureau de la communauté juive de la ville trouva le bureau fermé et deux hommes d'une brigade SS avec des casques d'acier et des fusils à la porte. Tous deux étaient membres de la brigade des divertissements et firent toutes sortes de choses pour s'amuser, eux et les autres. On donna aux juifs un seau d'eau chaude et on lui dit de nettoyer les marches de l'entrée. L'eau contenait de l'acide qui lui brûla les mains. Le grand rabbin de la communauté, portant sa robe et son châle de prière, fut poussé dehors à côté de lui. Et on lui dit de nettoyer aussi les marches. Les autres SS, debout tout autour, et les passants, souriaient ou riaient. 3-2-1. Un prêtre en Allemagne procurait un abri pour les Juifs et les Juifs venaient à lui pour se cacher. Il les envoyait chez des ouvriers des banlieues de Berlin et chez des fermiers à l'extérieur de la ville et il leur procurait asile par centaines. Pas une porte ne se ferma. Expliquant à un autre prêtre pourquoi il faisait ça, il demanda à ce prêtre qui était allé en Palestine, « Connais-tu la route de Jérusalem à Jéricho ?» Le prêtre auquel il parlait hocha la tête, et le prêtre qui avait posé la question poursuivit, « Sur cette route, il y avait une fois un juif qui avait été bousculé par des voleurs, et celui qui lui était venu en aide n'était pas un juif. Le Dieu que je révère m'a dit, « Va et fais comme il a fait, lui. » Je vais casser ce temps suspendu. Quelques éléments quant à votre Charles Reznikov tout personnel. Geneviève, par exemple, vous pouvez commencer à nous dire comment s'est faite cette rencontre.
Voilà mon Reznikov. Il se trouve, c'est vraiment très personnel ce que vous me demandez là.
Oui, justement.
Mais en fait, c'était dans un autre temps, à l'époque où dans le centre de Paris, au quartier latin, il y avait des librairies, ce qui paraît absolument incroyable quand on est place de la Sorbonne. Il y avait les puffs. Alors, je ne sais pas si certains sont suffisamment vieux parmi vous pour avoir connu ce temps-là. Et il y avait sous une table des puffs, des ouvrages de Black Sparrow Press qui étaient de magnifiques objets, livres, qui étaient des invendus. Et je sortais d'une période de concours où j'avais beaucoup lu de romans et j'avais une lassitude avec le roman. Et donc j'ai acheté ces livres parce qu'ils m'ont paru beaux. Et 30 ans après, voilà, c'est devenu un compagnon fidèle. Beaucoup travaillé, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de supporter de lire le texte que vous avez lu, que je trouve absolument insoutenable. Enfin, l'accumulation est une expérience d'un insoutenable et d'un irrémédiable que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer dans ma vie au quotidien avec un poète qui, au contraire, me faisait beaucoup de bien parce qu'il me parlait de mon expérience au quotidien, dans la ville. Voilà.
Alors, plus en lien avec l'autre texte majeur, enfin, il y en a beaucoup, mais qui s'intitule Testimony.
Témoignage.
Témoignage, et qui est... On peut dire quelques mots sur ce livre.
Je vais peut-être laisser Fiona en parler.
Juste pour
rebondir.
Rebondir ce que tu disais sur Holocaust, c'est le recueil que j'ai lu aussi en dernier et sur lequel je reviens le moins souvent.
Moi aussi.
Parce qu'il y a cette violence que tout le monde a peut-être ressentie en vous écoutant, qui est difficilement soutenable. Moi, j'ai comme Geneviève, j'ai commencé par les poèmes courts, des Complete Poems of Charles Reznikoff. Et peut-être je peux dire quelques mots sur ma découverte aussi.
Oui, volontiers. Oui.
Moi, c'était en lisant les poètes autour de lui, en lisant Louis Tchaïkovski, qui est le poète objectiviste.
Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots justement sur ce qui apparaît comme un mouvement, mais qui n'en est pas vraiment un, mouvement dit objectiviste? Quelles sont les quelques figures qui ont incarné ce mouvement? Pourquoi ça n'est pas tout à fait un mouvement? C'est lié surtout à un geste éditorial. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces quelques éléments?
Oui, parce que c'est intéressant, parce que Reznikoff...
On est dans les années 30 aux États-Unis, grosso modo.
Il est le plus souvent identifié aux objectivistes, parce qu'il a participé à l'initiative éditoriale de ce groupe. Ils ont formé une presse. Il y avait Louis Tchaïkovski, George Orpin, Karl Rakosi, lui-même... William Carlos Williams également, un poète d'un grand renommée au XXe siècle aux États-Unis, qui participait à cette initiative éditoriale. Et les Objectivist Press a par ailleurs publié, je pense, 3 recueils de Reznikoff, dont la première version, la version liminaire de Témoignages, un livre de prose. Donc ça c'est très intéressant que le témoignage à cette série a commencé très tôt, aux années 30. Donc Reznikoff se trouvait presque malgré lui au centre de ce groupe parce que il était non pas au centre d'un milieu littéraire, il était vraiment en marge de toutes les activités littéraires que souhaitait en revanche stimuler et encourager une figure comme Louis Tchaïkovski. Louis Tchaïkovski, il prenait la parole pour les autres poètes. C'était plutôt le chef de file. C'est lui qui rédigeait une forme de manifeste paru dans la revue Poésie en 1931. Et l'intéressant, c'est de voir que c'est Reznikoff, la figure qu'il a choisi à mettre en exergue dans son manifeste objectiviste. C'était la figure célébrée par tous les autres.
Alors, qu'on trouve dans ce...
Si je peux simplement ajouter un petit élément, le poème que Louis Tchaïkovski a jugé le plus extraordinairement objectiviste est un poème que Reznikoff va conserver dans les publications de ses œuvres, mais Témoignages et Holocauste sont complètement en rupture par rapport à cette poésie-là. C'est une poésie du son, de l'allitération, des correspondances imitatives, de l'écho, du jeu sur les syllabes, sur le souffle de la voix dans les mots en anglais. Et c'est un travail qui n'est justement pas le travail poétique, lyrique que l'on trouve dans Témoignages et Holocauste. Oui. Donc il est très intéressant de voir à notre époque cette catégorie objectiviste en fait être utilisée pour reconstruire et pour donner un sens à cet ensemble d'écritures de militants poétiques qui étaient plus ou moins en marge de la littérature officielle à l'époque.
Alors, si je peux rajouter quelques mots, on peut dire, je pense que c'était important de parler de l'artifice aussi du mouvement objectiviste, parce que Tchaïkovski reprenait le flambeau de son aîné, de Ezra Pound, qui lui-même avait publié son grand manifeste sur l'imagisme au début du siècle, en 1913. Donc Žukovski, c'était le fils spirituel d'Ezra Pound dans ce sens, et il voulait promulguer la poésie pour cette génération, et c'était un geste donc fort de création, de rédaction de ce manifeste. Mais Reznikov a été choisi, je pense, puisqu'aux yeux de Žukovski, il représentait un modèle. Un modèle du point de vue de l'esthétique qu'il proposait. Une esthétique, je suis d'accord avec Geneviève, est certes différente entre les poèmes courts, les premiers poèmes, et ensuite les poèmes longs avec leur souffle et leur musique dans le recueil de témoignages. Mais une esthétique qui avait son sens aux années 30. Une esthétique qui dénotait une forme de fascination pour le monde des objets, une fascination ou une adhésion au monde objectif, et qui, je pense, traduisait un type d'engagement pour le poète vis-à-vis de son temps. L'esthétique comme un engagement vers le social.
Ce serait intéressant, puisqu'on a affaire à deux spécialistes, que vous puissiez nous donner votre définition de l'objectivisme.
Je pense que nous sommes en train de le donner.
Oui, mais par différenciation avec, vous parliez d'imagisme.
Pour moi, la grande différence, c'est la vocation éthique des poèmes objectivistes. Il y a, comme je commençais à dire, l'importance de l'esthétique que propose Reznikov, mais à côté de ça, il y a cette volonté d'inscrire le geste d'écrire dans la construction d'un monde.
Oui, politique.
Politique.
Dans une police. Oui.
Je pense que ça, c'est la clé, si on veut comprendre la différence entre l'imagisme et l'objectivisme. Les imagistes se sont jamais totalement détachés du symbole ou de l'évocation ou de l'abstraction de leurs aînés, les symbolistes. Alors que les objectivistes ont recherché vraiment cette forme de distanciation.
Ça collait au réel.
Oui, ça collait au réel. Et bon, Žukovski, il parlait de la nécessité d'écrire pour la communauté, pour le bien de tous. Il utilisait ces mots-là, très politisés, finalement. Et si on pense, par exemple, à l'essai, le seul essai de Reznikov, la nécessité, First There Is a Need, qui a été traduit très récemment par
Henri-Jules Julien.
Oui, Henri-Jules Julien, est publié par un éditeur suisse, Héros Limite. C'est sorti cet été. Première traduction en français. Dit très bien l'importance de cette production politique chez les écrivains objectivistes. Donc peut-être tu peux ajouter quelque chose. Mais...
Oui, entièrement d'accord sur le fait que l'objectivisme, c'est une prise de position individuelle dans la cité, mais qui n'est pas forcée, enfin pour Reznikov en tout cas, qui n'est pas la preuve d'un militantisme au sens du militantisme marxiste. C'est-à-dire que Reznikov a toujours refusé d'appartenir à un quelconque groupe politique. Par exemple, il n'a pas voulu rentrer au Parti communiste, alors qu'il en était très proche, et il venait d'une famille de socialistes du Bund, donc avec une très forte tradition socialiste familiale. Mais l'acte poétique n'est pas un acte militant au sens où il s'agit de dire au lecteur j'écris, tu vois, tu as entendu, et donc tu sauras agir. il n'y a pas chez lui cette forme que Jacques Rancière appelle un asservissement du lecteur, cette projection linéaire du texte à la conséquence qui serait politique dans le choix que le lecteur ferait après avoir lu.
Il ne prend pas l'ascendance.
Non, il a une modestie et une humilité face à la fois aux événements et face au lecteur qui s'est interdit ce type d'approche qu'il considère comme totalitaire. Et c'est pour cela que l'objectivisme est une posture moderniste au sens d'une rupture. Et il me semble que la rupture principale, elle est d'ordre politique et d'ordre esthétique parce qu'il refuse l'analogie. Il refuse le « c'est comme ». Donc les petits mots comme « like » ou « as » et la métaphore en tant que régime de la... Ils ne sont pas proscrits, ils s'en méfient d'abord dans son propre premier jet. Et nous avons travaillé toutes les deux sur les archives de Resnikov. Et c'est vraiment extraordinaire de voir comme il élimine au fur et à mesure, comme il élague et comme il va vers une ligne poétique sobre, la plus retenue possible. Et donc l'émotion viendra autant de ce qui est excisé, enlevé, que de ce qui est dit. Donc il me semble que ça, c'est quelque chose qui fait le lien entre l'esthétique, et le poétique et le politique.
Alors, on pourrait peut-être préciser qu'on parlait des grands textes de Resnikov, l'un témoignage et l'autre holocauste, sont basés sur des documents ou des archives. C'est une question que je serais heureux de vous poser aussi. Pour témoignage, est-ce que vous pourriez nous préciser de quel type de document il s'agit, de quel type d'archives ? Préciser aussi que voilà, il était écrivain, il est resté. Enfin, on le connaît comme écrivain, mais ça a été un journaliste et il a une formation de droit, je crois.
Oui, je peux dire quelques mots là-dessus.
Des études de journalisme, pardon.
Oui. Un an. Fac de Missouri.
Voilà, il n'a pas fait des études de lettres.
Tout de suite abandonné. Non.
Je pense qu'on vient de distribuer d'ailleurs une photocopie d'un extrait des documents sources. Justement, oui. Des documents sur lesquels Resnikov s'est appuyé pour. Je ne sais pas s'il en reste des exemplaires. Peut-être un exemplaire pour la table ici.
C'est gentil. Je peux peut-être faire le lien entre le refus de la représentation du document. Si tu veux, je présente.
Donc là, c'est un extrait de témoignage.
Oui. Alors, justement, je peux dire quelques mots sur. La formation de Resnikov avant qu'il arrive à ses documents sources. Il était avocat, justement, de formation. Il était inscrit au barreau très jeune, à 22 ans, le barreau de l'État de New York. Il a aussitôt abandonné ce métier-là pour se consacrer entièrement à la poésie. Et pendant les années, il a occupé quelques fonctions subalternes, notamment l'occupation de rédacteur pour une encyclopédie juridique. Donc, de par sa formation d'avocat et puis ce travail éditorial et de rédaction pour l'encyclopédie juridique, il a eu une très très bonne connaissance d'un ensemble de documents qui font partie d'un compendium de jurisprudence américaine qui s'appelle The National Reporter System. Donc, c'est un recueil de documents de jurisprudence qui a été fondé au XIXe siècle et qui est toujours un outil de référence pour les affaires de droit aux États-Unis aujourd'hui. Je pense d'ailleurs, je voulais poser la question à Vanessa Place si c'était bien ces documents sources.
Les mêmes documents.
Oui, si c'était les mêmes, je pense que ça doit l'être en partie. Alors lui, il a commencé à prélever dans ses documents à partir de la fin des années 20, début des années 30, et il a continué toute sa vie à se référer à ses sources comme un outil d'écriture. La plupart du temps, il allait à la bibliothèque de la ville de New York. Il utilisait les ressources qui étaient à sa disposition. Et comme le disait Geneviève, si on a l'occasion de regarder ses manuscrits, on découvre que ces sources deviennent pour lui un véritable brouillon, un document manuscrit. Et c'est effectivement extrêmement intéressant de parcourir ces documents et se rendre compte de cet énorme travail de bifure, de rature, d'élimination.
Délagage
qui s'opère pour arriver à ces récits. Ces poèmes restent néanmoins des récits, mais ce sont des boutures, des fragments.
Des récitatifs ?
Voilà. Bon, on peut parler du récitatif, qui est un mot merveilleux, un mot qui dit beaucoup de choses, qui a plusieurs sens. Le premier, peut-être, sens qu'on peut rattacher à ce mot, c'est le mot de récit. Voilà. Les sources, les documents juridiques, le document très âpre, très ordinaire, sur lequel il travaille, est avant tout une narration qui raconte l'expérience des témoins, l'expérience des victimes. Le récitatif est par ailleurs une référence au vocabulaire musical.
À l'opéra.
Le récitatif dans l'opéra étant une phrase musicale, une phrase parlée, mais qui est censée, à la différence de l'air ou de l'aria, conserver une espèce de naturel, enfin, le langage naturel, le langage parlé, dans une œuvre dramatique. Donc c'est pas anodin s'il choisit aussi ce terme, parce que ça dit bien ses objectifs. L'objectif qu'il se donne, c'est de proposer une écriture qui n'est ni le vers ni la prose, mais c'est entre deux, une langue qui présente une qualité musicale, mais qui présente tout autant un caractère naturel, parce qu'elle retient la langue des témoins. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est recueillir la voix des autres, la voix des témoins. Sa voix à lui passe en dernier plan. Et Geneviève le disait, elle parlait de sa modestie. Je pense que c'est essentiel pour comprendre Reznikov. Je pense qu'il se voyait comme une sorte de médiateur, qui par son écriture proposait une forme de médiation, une médiation entre la violence de la vie sociale qu'on découvre en lisant les poèmes, que ce soit Holocauste ou Témoignage, et l'art qu'on peut comprendre en lisant Reznikov comme une forme de, pourquoi pas, de consolation, une consolation qu'on peut entendre à force de lire ses poèmes, à force d'entendre comme une litanie, comme une musique qui revient, une répétition qui revient et qui nous berce quelque part. C'est comme ça que je l'éprouve en fait en lisant Reznikov, et surtout en l'entendant. J'ai eu l'expérience il y a 2 ans maintenant d'entendre une représentation des poèmes. Je ne sais pas si vous
dans
l'avez.
Sa voix.
Oui, au théâtre de Bagnolet. C'était une mise sur scène de
Henri
Julien. Et ça, c'est une expérience particulièrement riche, parce que je n'avais jamais entendu dire les poèmes autre que dans les colloques ou dans des occasions comme aujourd'hui. Et là, il y avait un véritable verbe, avec un acteur d'origine russe, c'était très pertinent, monsieur Victor Ponomarev. Merci, c'était lui, qui a fait une formidable performance, et accompagné par une pianiste, Sophie Agnel, qui faisait du piano préparé. Donc il y avait la rencontre de une discordance, bien entendu, mais une rencontre aussi de différentes formes de musicalité. La musicalité de la voix et puis de piano.
Alors il y a cet aspect, disons, esthétique dans le texte Testimony en particulier, que vous soulignez, Mais quand on s'y plonge, et c'est tout de même une somme qui court de 1887, 5, je crois, jusqu'à 1917, c'est un portrait des États-Unis en creux, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, il couvre quasiment tout le territoire américain. Il y a des séquences qui sont introduites par des désignations.
Revenir là-dessus.
De cardinal, j'ai envie de dire. Est, ouest. Enfin, je ne sais pas s'il y a l'est d'ailleurs. Il y a l'ouest, il y a le sud, le nord.
Et le nord,
Et c'est une sorte d'épopée. Alors, est-ce que. Est-ce qu'on ne frôle pas les pics aussi dans ce.
La raison de la structure est très banale. Il a reproduit l'organisation, l'architecture, si on veut, des archives, des documents sources qui sont organisés de façon chronologique par période historique et de façon géographique par région. Donc c'est une, il plaque en fait les mêmes organisations sur les poèmes. Alors est-ce que c'est une œuvre épique ? C'est une question. Importante, parce que quand on lit l'ensemble de ces poèmes, on reçoit effectivement comme l'image du pays dans son ensemble. C'est un paysage complet des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit le même contenu que dans les documents sources. On voit, dans d'autres termes, des crimes. Une litanie, une répétition des crimes de tout genre et des injustices de tout genre. Alors, est-ce que c'est une épopée ? Dans une certaine mesure, on peut dire que oui, c'est un poème épique parce qu'il relate l'histoire de son pays, l'histoire sociale de son pays. Est-ce que c'est une épopée ? Oui, parce que c'est chanté, c'est un récitatif. La fonction première du bard, enfin du minstrel, du poète, c'était le chant de l'histoire de son
le ménestrel.
Tribu, le ménestrel. En revanche, il y a cet élément de l'inexpliqué, ce que nous disions au début, l'histoire reste incomplète. Incomprise. Le dénouement de cette histoire reste en suspens. Donc, il n'y a aucun effort de ramener les fils de l'histoire, à la différence d'une épopée.
Geneviève, quelques mots sur votre approche de testimony.
Bien entendu, je partage l'analyse de Fiona. Il y a deux choses qui me paraissent peut-être devoir être dites parce que, en vivant avec Resnikov, je me suis aussi intéressée à l'art visuel contemporain. Et je pense que le fait qu'il utilise des documents correspond à une rupture décisive avec la notion de représentation. C'est-à-dire que utiliser des documents, des archives dans ce recueil signifie qu'il ne va pas faire une représentation doublée par le poème, la réalité, mais utiliser le document brut, la réalité brute, et c'est un petit peu comme quand on va dans un musée d'art moderne, je pense au Whitney Museum, parce que ça m'a vraiment frappée la fois dernière, on rentre dans une salle et l'on voit une station d'essence des années 50-60 américaine. On la voit avec son émail un peu abîmé, ses couleurs criardes, et on a l'objet planté au milieu de la salle du Whitney. C'est toute la différence avec le modernisme où l'art d'un Edward Hopper. Hopper va lui peindre et représenter la station-service et faire un tableau, un portrait, comme vous l'avez très bien dit, un portrait de l'anonymat américain, de la fragilité de l'individu dans la nuit américaine, mais le tableau représente. Resnikov, lui, bascule dans toute autre chose. Il prend l'objet réel, l'archive elle-même, en tant que matérialité de vieux grimoires, de papier plein de poussière. Il fallait qu'il descende dans la New York Public Library, qu'il aille par, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ouvrir, compulser ces objets. Et il me semble que le rapport n'est donc, quand on lit, quand on est lecteur et quand on a cet ouvrage dans les mains, on ne lit pas une représentation de la vie collective américaine de la fin du 19e et du début du 20e, mais on est au contact, et le contact est de l'ordre de la trace, de l'ordre de l'empreinte. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'on peut approcher Resnikov et on peut approcher ce texte que personnellement je trouve insoutenable parce que c'est une accumulation impitoyable de meurtres, d'assassinats, de viols, de situations épouvantables, d'humiliation. Mais nous les voyons un siècle plus tard. Et Resnikov nous fait approcher. Il ne prétend pas représenter, mais il nous met au contact de, et c'est par l'intermédiaire de la page du livre, et il me semble que c'est une matérialité importante, il nous fait approcher une histoire d'un individu qui a eu un nom, qui a eu une vie, qui a souffert, et qui, un siècle plus tard, devient soit une deux lettres de l'alphabet pour son prénom ou son nom, ou alors simplement Amélia avait juste 14 ans et elle venait sortir de l'asile de l'orphelinat. Je traduis de l'anglais et il nous raconte ce qui est arrivé à Amélia, qui est quelque chose d'absolument horrible. La machine avec laquelle elle devait travailler a pris sa chevelure et a arraché son scalp. Et le poème s'arrête. Elle avait 14 ans. Et quand on lit cela, et qu'on voit que le poème suivant introduit une nouvelle accumulation dans l'horreur, on se rend compte que Resnikov est très proche de quelqu'un, même si ce n'est pas un rapprochement souvent entendu, mais il est très proche de Gertrude Stein, qui comptait non pas 1 plus 1 égale 2, mais comme elle dit, comme ses vieilles tantes comptaient, et comme les The Spaniards count, 1 et 1 et 1 et 1. Et il n'y a jamais, en fait, dans cette accumulation, de résolution par une somme qui donnerait l'impression, justement, d'un dénouement. Nous sommes, et c'est en cela que c'est une expérience qui est vraiment contemporaine, même s'il a commencé dans les années 30, parce qu'il nous... il nous montre que l'horreur d'hier ne va pas se résoudre de manière dialectique par un dépassement où l'horreur d'hier s'accumulera à l'horreur d'aujourd'hui et de demain. Et nous sommes face à cette irrémédiable, cette inconsolable, mais un siècle plus tard. Et donc ça dit quelque chose de l'anonymat de la vie américaine, de la vie industrielle. Et c'est pour ça que dans les petites photocopies qui vous ont été proposées, j'ai utilisé une image, une photographie, parce que je pense que la photographie nous fait peut-être approcher la nature de ce texte, parce que la photographie argentique est une écriture sur la lumière. Il y a une emprise de la lumière en tant qu'objet. Et en voyant cette photo d'une immense, énorme machine, comme un dieu Chronos de Charles Schiller, devant la machine, il y a un ouvrier qui travaille et qui est en train de nourrir cette machine. Il est à son service, il y a une forme de cérémoniel, de rituel, de worship, de l'âge industriel. Il me semble, voilà, qui est le titre de la série
Machine Age.
Et il me semble que si l'on prend la peine de faire le détour par la photographie, on se rend compte que on a en tant que lecteur la même relation au poème que face à une photographie de cette nature. Nous sommes au contact de la trace, de l'empreinte, mais plus l'empreinte mythologique comme quand on était jeune et qu'on lisait dans Virgile que la déesse avait laissé l'empreinte de son pied sur le sable mouillé, et la déesse évidemment avait disparu, il ne restait que la trace. Et l'empreinte était en fait la trace d'une présence, mais d'un spectre, d'un invisible. Ça n'est plus du tout ce régime-là, c'est le régime de l'indice. Et la photographie nous permet de comprendre que nous avons là non pas une représentation, mais une capture du réel. Ce qui m'amène à rebondir sur ce qu'a dit de façon tout à fait pertinente Fiona, c'est qu'il y a un énorme travail. C'est à la fois le document brut et le document retravaillé. Et la question qui, moi, m'a poursuivie, mais pendant des années, ça a été, mais pourquoi est-ce que c'est de la poésie? Et en quoi est-ce que c'est de la poésie? Parce qu'on entend la langue de tous les jours. C'est un document d'archives qui a été entièrement approprié. Donc la première réaction est de comparer les deux et de constater l'écart. Mais même l'écart constaté, on se dit, pourquoi est-ce que c'est encore de la poésie? Et au bout de des années de lecture d'autres poètes, parce qu'on a besoin de passer par d'autres poètes, c'est peut-être Jean-Marie Glaise qui m'a fait le plus comprendre pourquoi c'était de la poésie. C'est de la poésie parce que au bout de la ligne, il y a la cassure et on revient. Et donc visuellement, il y a un artifice qui est maintenu. Et je me suis demandé longtemps pourquoi maintenir cet artifice poétique alors que ce qu'il veut nous montrer, c'est la réalité brute. Bien, il me semble que l'une des réponses pourrait être que l'artifice maintient une distance et nous empêche de croire que nous sommes directement au contact d'eux, que nous aurions directement accès à l'expérience de cette souffrance. Non, nous sommes confortablement installés là, avec vous, sur un petit coussin, et ce soir nous rentrerons chez nous, et ça sera un moment agréable. L'expérience que nous vivons par la lecture est une expérience par procuration, et la distance de l'artifice maintient la conscience que, même si notre cœur bat, même si nous avons des larmes aux yeux, ça reste l'expérience d'un autre. Et toute la difficulté de Resnikov, c'est à la fois de nous faire approcher sans nous donner l'illusion que nous aurions connaissance de cette expérience, de cette souffrance ou de ce moment de mort par la vertu d'avoir lu. Non, je pense que c'est ce qui nous permet de comprendre où nous sommes.
Et c'est cet effet-là qui s'est produit royalement, je l'ai trouvé, au théâtre. Quand j'ai entendu les poèmes au théâtre, il y avait cette distance, il y avait cette beauté de la mise sur scène, comme disait Jules, pour expliquer cette performance.
J'ai fait la même expérience, mais la fin des années 99, avec Claude Régis.
Oui, moi c'est pareil, c'est par
Claude Régis, j'avais travaillé avec lui. Et justement, l'une des grandes questions... Claude Régis avait donc... nous avions travaillé ensemble, traduit le théâtre non versifié, injouable, que les Resnikov voulaient ne pas voir jouer. Et nous sommes arrivés à Holocauste, et l'un des grands sujets de nos discussions était la scène, rideau ou pas rideau, applaudissement ou pas applaudissement. Et il a... quand je lui ai expliqué ce que je pensais être cette nécessité de la coupure et du danger de la théâtralisation, il a décidé, j'en étais vraiment à la fois touchée et puis contente, parce que ça m'a semblé fidèle à l'éthique de l'écriture poétique, c'est qu'il a, il a demandé au début de la séance à ce que les spectateurs n'applaudissent pas. Il n'y avait pas de rideau. Et le, l'acteur qui a fait une performance absolument extraordinaire, parce qu'il a dit par cœur, il a tellement intériorisé ce texte qu'il a pu le dire par cœur, a aussi accepté de ne pas être reconnu par l'applaudissement, parce qu'on est dans autre chose. Et la, le, il y aurait un problème éthique à, dans, ce, dans le cas d'Holocauste à en faire un spectacle. Et c'est tout le problème de la... Alors, je n'ai pas assisté à ce que tu as vécu, mais pour Claude Régis, c'était un enjeu très fort. Et...
Oui, ben moi, je, si je peux ajouter quelques mots à ce que tu disais sur l'expérience de cette poésie, finalement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, et j'ajouterais seulement que pour nous, entendre ces poèmes peut ressembler à une forme de recueillement, puisque nous, spectateurs ou auditeurs, nous recevons ces fragments, tout comme Reznikov les recevait. Pour lui, c'était une forme de, une façon de cueillir l'émotion, comme il le disait lui-même, qu'il n'avait pas l'ambition de d'écrire l'émotion ou de le créer, mais l'émotion était déjà présente dans les récits. Comme il disait de façon plus froide, parce qu'il pouvait aussi parler de son travail de façon très distancée et très froide. Il disait que l'émotion était dans le choix des matériaux. Donc une réponse très, très moderne aussi de sa part. Toujours trouvé.
Oui. Et justement, toute la force de cet effort, de cette tentative d'écriture, me semble venir d'une sorte de combinaison entre une émotion violente qui conduit à douter du fait que nous vivons dans une communauté, enfin qu'il y a une communalité de notre vie commune. Quand on voit par exemple la décapitation récente, on peut se demander effectivement ce que signifie vivre ensemble, et je crois que Reznikov fait ce constat d'une perte d'un monde commun. Il y a une communauté ébranlée, mais en même temps, ce qu'il affirme, c'est que ça ne doit pas, on ne doit pas en rester à l'ébranlement, on ne doit pas en rester au constat de cet irrémédiable et de cet insoutenable, mais qu'il faut le reprendre. Et le reprendre par l'écriture, mais aussi par la parole, qui est exactement cette parole de commentaire, qui n'est pas une paraphrase inutile, mais qui est une reprise interprétante et une autre façon de refaire circuler à la fois l'ébranlement et la nécessité qui constitue pour moi la nécessité de le refaire surgir, d'en reparler. Et pour moi, c'est ça la force de la poésie, c'est de nous aider à penser et de penser le quotidien. C'est-à-dire que témoignage arrive tous les jours, en fait, pour moi.
Alors, c'est ce que je voulais suggérer, effectivement, c'est que peut-être on se penche de manière plus précise sur un texte de votre choix, l'une et l'autre.
Moi, j'allais proposer de lire des courts poèmes tirés de témoignages, mais c'est en anglais, malheureusement, mais parce qu'on n'a pas le texte en français. Mais pour peut-être juste donner à entendre la musique de cette langue. C'est des deux premiers poèmes, peut-être, sont sur vos polycopiés. Là, c'est de la série Town and Country. C'est bien cela, Sébastien? Oui. Je lirai ces deux poèmes-là. Sinon, vous avez entre vos mains aussi l'un des poèmes de la série Machine Age. On peut en discuter aussi après. Town and country. The body had been buried face downwards. Only the skeleton was left, and it separated in the handling when dug up. The coat was yellow ducking, lined with a light-colored blanket, overalls of yellow ducking too, and a patch on the knee, a belt on the skeleton, a knife in the pocket, and a bullet hole in the back of the skull. Streetcars and railroads. It was early in the morning, drizzling, and because of the fog, still dark. The old woman began to cross the railroad tracks slowly. No sound of whistle or bell or glow of headlight, and the speeding engine struck her. Deux exemples qui rejoignent ce que disait Javier sur la, l'élément commun que ces poèmes expriment et qui sont vrais, tout aussi vrais à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle qu'aujourd'hui. Ça te traverse le temps de façon tout à fait poignante. Et puis peut-être je termine avec The Mangle.
Rajouter une toute petite chose, vous avez certainement perçu l'absence du poète. C'est ce qui est absolument incroyable. Quand on aime la poésie, généralement, on aime la poésie lyrique. Mais là, tout d'un coup, Resnikov montre un petit peu comme un photographe des années 30 qui s'appelait Paul Strand, photographié sans être vu dans le métro parce qu'il avait un imperméable avec des boutons. Et il avait réussi à miniaturiser l'objectif et il pouvait prendre, sans être vu en appuyant dans sa poche, des photos. Et donc il a fait des séries photographiques absolument éblouissantes. Mais il me semble retrouver là la même stratégie de quelqu'un qui voit sans se montrer et qui montre sans se montrer. Très souvent, ce qu'on appelle la froideur de Resnikov vient de cet effacement, de cette retenue, de cette réticence et de cette très grande pudeur qu'il a.
Donc nous avons une image dans les archives, une image de cette pudeur dans les lignes raturées. Donc peut-être vous lire seulement donc ce poème tiré de la série Machine Age, dont vous avez le texte dactylographié, une forme de manuscrit de la main de Resnikov, et vous pouvez comparer en écoutant la forme initiale du récit juridique et à l'arrivée le récitatif.
The mangle had a hollow cylinder heated by steam. Above it, three rollers with belts turning them. The laundry to be ironed was carried between cylinder and rollers. Sometimes an article, if not completely dry, passing under the third roller, would stick to the roller and wind around it. Then the machine would have to be stopped, or generally, the article was just pulled loose and then sent between cylinder and roller a second time. A girl of 17, working in the laundry, in trying to pull a tablecloth from the third roller, had a finger of her right hand caught between roller and cylinder, and in her hurry to pull her hand free, the fingers of her left hand were also caught, all the fingers drawn up to the knuckles, and the pressure such that the fingers were flattened and the bones crushed.
Donc voilà encore une image.
Oui, on voit bien les.
De la destruction.
Comment appeler ça ? Ce ne sont pas des interférences, ce sont des actes poétiques.
Oui,
oui. C'est une action.
En mouvement. Ici, on voit l'écriture en devenir quand on lit les archives.
Alors moi, j'avais envisagé pour à la fois sortir de l'œuvre de Resnikov et y revenir autrement à un petit poème d'un auteur qui s'appelle Dan Pages, qui est un auteur qui écrit en hébreu et qui est traduit, qui est israélien et qui a été traduit en anglais. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à ce petit poème, c'est que vous m'aviez dit que vous alliez citer Holocauste. Et ce poème m'a semblé intéressant parce que il montre comment les expériences violentes du XXe siècle confrontent à une sorte de césure, à une sorte de fracture. Il s'est passé des choses, et pas évidemment pas uniquement le génocide, et il se passera d'autres choses qui font que les formes héritées sont devenues impossibles. Et on a Resnikov écrit, et les poètes écrivent après Resnikov, en héritant de cette césure fondatrice et de l'injonction qui est faite à la pensée de se retourner contre elle-même. Alors c'est pour ça que le petit poème de Dan Pages, je l'ai mis en anglais et en français. Il n'y a pas de titre.
C'est un auteur de quel
qui est vivant, contemporain et qui doit avoir une quarantaine d'années.
D'accord.
Et qui vit en Israël mais aussi aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez, ce petit poème, avec vous? Non? Alors je le lis rapidement, en français, puis ensuite en anglais. Écrit au crayon dans un wagon plombé. Ici, dans ce wagon, je suis Ève avec mon fils Abel. Si vous voyez mon fils aîné, Caïn, fils d'Adam, dites-lui que... Written in pencil in the sealed freight car. Here, in this carload, I am Eve, with Abel, my son. If you see my oldest son, Cain, son of Adam, tell him that I... Alors, ce poème m'intéresse parce qu'il est né de ce déplacement de différentes langues, de l'hébreu à l'anglais, et de la langue apprise vers la langue traduisante. Et en fait, hormis un mot, le wagon plombé, il n'y a aucune référence à l'événement. Et il me semble que l'appropriation de ces versets de la Genèse disent la continuité d'un cycle meurtrier, et c'est une continuité que je trouve dans l'œuvre de Resnikov, parce qu'il y a d'autres poèmes dans lesquels il se pose la question de la violence des croisades, de la violence des pogroms, de la violence du capitalisme contre les ouvriers, et Resnikov aussi le voit comme une famille universelle qui est massacrée. Il me semble que ça, c'est quand même un des ponts que Resnikov nous permet de faire avec la poésie contemporaine, parce que le mal dont il s'agit, c'est un mal qui est propre aux sociétés humaines. Et c'est cette réflexion sur l'interruption de l'échange, quand elle dit « dites-lui que », qui est importante, et en même temps, c'est un poème qui est adressé à quelqu'un, on ne sait pas qui. Edmond Jabès disait que tout lecteur est l'élu d'un livre, c'est un poème qui attend son lecteur. Et il me semble que les poèmes de Resnikov peuvent être aussi lus comme cela, comme une attente d'un lecteur. Et puis le deuxième poème que j'ai mis juste après, c'est celui de Amelia, qui est donc le poème dans lequel cette jeune femme, de 14 ans, cette toute jeune fille est blessée. On ne sait pas si elle est morte, si elle aura une compensation de la compagnie qu'il a employée ainsi, sans aucune mesure de protection pour ses ouvrières.
Voilà. Même teneur que...
Voilà. Donc je vais peut-être pas le lire. Ou est-ce que... Vous souhaitez que je le lise?
Oui, volontiers, oui.
Okay.
On a 5 minutes.
Amelia was just 14 and out of the orphan asylum. At her first job in the bindery, and yes, sir, yes, ma'am, oh, so anxious to please. She stood at the table, her blonde hair hanging about her shoulders, knocking up for Mary and Sadie the stitches. Knocking up is counting books and stacking them in piles to be taken away. There were 20 wire stitching machines on the floor, worked by a shaft that ran under the table. As each stitcher put her work through the machine, she threw it on the table. The books were piling up fast, and some slid to the floor. The forelady had said, "Keep the work off the floor." And Amelia stooped to pick up the books. 3 or 4 had fallen under the table between the boards nailed against the legs. She felt her hair caught gently, put her hand up, and felt the shaft going round and round, and her hair caught on it, wound and winding around it, until the scalp was jerked from her head and the blood was coming down all over her face and waist. C'est horrible. C'est juste horrible. Et la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi est-ce aussi lisible et aveuglant en même temps?
Et celui-ci, je trouve, est encore plus émouvant que l'exemple que j'avais choisi, The Mango. Et pourquoi? Parce qu'il y a des traces plus immédiate de la personne, et là par la voix, et les reprises de paroles. Yes, sir, yes, ma'am, oh, so anxious to please. Donc, c'est les boutures de témoignages voilà. qui sont préservées, et nous sortons de la trame du récit en tant que tel.
Et l'une des choses effrayantes est que finalement, quand on lit de la poésie, on a toujours l'habitude de d'associer le poème à une intériorité. Là, il est absolument impossible de remonter à l'intériorité de Resnikov en tant que poète et en tant que personne. Et si on se pose la question, est-ce que c'est un poème? Est-ce qu'il produit une satisfaction esthétique? C'est presque insupportable. De se dire cela. Donc non, le poème n'est pas supposé créer un plaisir esthétique, mais il y a un travail sur le vers, un travail sur les sons, même si ça ne va pas vers l'imitation des serpents sur nos têtes. Et c'est une œuvre d'art si on admet que ces questions sont les questions que tout le XXe siècle et notre époque encore se posent et tentent de répondre.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est la continuité de cette œuvre dans la création contemporaine. Voilà. Moi-même, j'ai été frappée quand j'ai commencé à lire Resnikov, c'était à la fin des années 90, par l'engouement chez les poètes français. C'est en lisant Olivier Cadiot ou Pierre Alféri que je retrouvais des hommages les plus poignants de l'œuvre de Resnikov en français, ou bien les traductions des pointures de Roubaud, Manuel Ocard. La création française semblait vraiment tout
Peut-être
à fait
plus qu'aux États-Unis,
irrigué.
J'ai l'impression.
Complètement.
On a l'impression qu'il est devenu un poète américain français.
Complètement, oui. Alors il y a encore des poètes très attachés à l'œuvre de Resnikov aux États-Unis, comme Michael Heller
et Charles Bernstein.
Charles Bernstein, bien sûr. C'est ici
que ça se passe.
Oui. Ça se passe,
et il le redécouvre parce que nous nous intéressons à lui. Alors moi j'ai commencé 10 ans avant toi, dans les années 80. Resnikov n'avait son nom nulle part, n'était dans aucune bibliographie, il n'existait pas. Il était une note de bas de page, soit dans l'imagisme, soit dans l'œuvre de William Carlos Williams, ou alors lié à Ezra Pound. Mais il a vraiment, dans les 30 dernières années, changé de statut et il est presque devenu le grand-père de la figure tutélaire de la poésie contemporaine. Donc c'est très étonnant de voir cette circulation et entre la France et les États-Unis, mais aussi avec l'Italie.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Je me souviens avoir participé à une rencontre à Rome avec Jean-Marie Glaise et des poètes italiens qui se revendiquent de l'objectivisme. Mmh. Et donc c'est absolument extraordinaire de voir l'œuvre qui renaît en fait dans d'autres lieux, dans d'autres langues, l'œuvre circule. Et Holocaust vient d'être traduit en italien.
Et ça retourne aux États-Unis.
Voilà. Oui. Voilà.
Bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Geneviève et Fiona. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions éventuelles. Si quelqu'un a une interrogation quant au poète objectiviste et Resnikov en particulier.
Je sais qu'il a commencé à travailler de cette façon-là dans les années 30, donc au niveau des dates, ce n'est pas non plus complètement synchrone. Mais en fait, la question que j'aurais, c'est est-ce qu'il y a eu un dialogue entre lui et Adorno sur ce fameux interdit moral d'écrire de la poésie après le génocide ? Est-ce que ce ne serait pas, enfin, je pense notamment à l'Holocauste, une façon de se positionner par rapport à ce fameux article d'Adorno ?
La question que vous posez est tout à fait pertinente, parce que en tant que lecteur, nous lisons Resnikov en ayant lu Adorno. Et donc, nous avons, comme disait l'autre, Ricoeur, quand on lit tous les livres ouverts en même temps. Donc la chronologie littéraire est une achronologie, elle est réversible. Et bien entendu que c'est la lecture d'Adorno qui nous fait lire Resnikov en se posant la question, et c'est d'ailleurs la force de Resnikov, de, en apparence, n'avoir que... d'avoir maintenir une grande distance vis-à-vis des débats du siècle. Mais en fait, quand on a la curiosité de lire Adorno, on se rend compte à quel point l'œuvre est une réponse à Adorno. Bien sûr que la poésie est une nécessité absolue, et c'est une nécessité parce que la poésie doit repenser les formes héritées et doit repenser la notion de représentation. Et si le poète fait cet effort, alors il peut écrire après Auschwitz, bien entendu, il le doit. Et donc la question me paraît tout à fait pertinente parce qu'elle correspond à notre expérience de lecteur. Nous lisons Resnikov et Adorno, puis tant d'autres. Oui.
Quelqu'un d'autre ? Tu as une autre question, Sébastien ?
Éventuellement, mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole.
Moi, j'ai une question. C'est Fiona qui m'a fait penser à cette notion de langage, de langue démocratique. On est frappé quand... je ne suis pas du tout spécialiste de poésie américaine contemporaine, mais voilà, il y a quand même des textes majeurs. Je pense à Patterson de Carlos Williams. Même les Feuilles d'herbe de Walt Whitman sont des tentatives je fais ce geste d'embrasser le territoire américain qui est très jeune, lui égard comparé à la vieille Europe, comme on dit. Et il me semble ce désir de langue démocratique. Et j'avais pas forcément raisonné en ce sens par rapport à Resnikov, mais en vous écoutant, je me suis dit que cette langue que vous décriviez comme finalement étant la langue d'un auteur, mais qui se met en retrait et qui fait parler l'autre et des anonymes pour transmettre finalement quoi le mal qui se perpétue. Et la honte d'être un homme, je fais allusion à Primo Levi, et je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas trouvé une langue démocratique ?
Oui, en vous écoutant, vous me faites penser à Allen Ginsberg, c'était un grand lecteur de Charles Reznikov, qui peut être assez surprenant, vu la tonalité de la poésie de Ginsberg, oui. Tonitruant, et tout le contraire du personnage public aussi de Reznikov. Lui qui disait qu'il y avait deux poètes importants pour lui, deux poètes américains importants, c'était Whitman et Reznikov.
Ah, il cite Reznikov, ça je ne savais pas. Oui.
Ensemble avec Whitman. D'accord. Et c'est ça qui était fascinant. Vas-y.
Et donc, pour apporter une pensée du dehors, parce que il me semble toujours important de voir les choses par un autre angle, Reznikov est aussi tout à fait capable de parler avec la langue de la Bible, de la King James Version. Il est capable de parler avec l'anglais du Talmud en traduction. Il est capable de décrire des récits d'explorateurs du XVIIe siècle, début du XVIIe, arrivant aux États-Unis et découvrant une nature absolument extraordinaire qu'il voit immédiatement en termes d'arbres très droits qui pourront être des mâts pour les bateaux de la Royal Navy, de la reine Elisabeth Ier, Virgin Queen. Donc il a à la fois une voix démocratique, démotique, la voix, l'anglais de son temps, mais en même temps, il est capable de parler toutes les voix. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi.
Bien, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, j'aime bien faire un peu de publicité à la fin de ce genre de rencontre. Donc, Fiona organise ce sont des journées d'études consacrées à l'archive. Donc c'est à l'Université de Bourgogne en novembre, hein, c'est oui. ça. Oui. Et puis on attend les traductions des œuvres de poésie complète par Geneviève Cohen-Cheminée, peut-être l'année prochaine.
Inch'Allah.
Okay. Merci, voilà, merci de votre présence à tous. Merci beaucoup.